hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. Hors champ, seconde émission avec Gus Van Sant. Quand avez-vous commencé à peindre, Gus Van Sant?
I painted a long time ago.
Je me suis mis à peindre il y a longtemps.
When I was quite young, like 12.
Je devais avoir 12 ans.
Years old, we had a teacher in our middle school who was very influential,
collège,
and so we were all emulating
un prof d'art qui exerçait beaucoup d'influence sur nous. Et j'ai continué à peindre.
In college,
jusqu'à ce que
where
j'arrive
I started
à la fac.
To like dabble in cinema,
et puis
and
à la fac, j'ai commencé à faire un
so
peu
I
de cinéma.
Stopped,
ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai arrêté la peinture.
I stopped painting until pretty recently.
Et puis je me suis remis il y a quelques années, il n'y a pas longtemps.
Et continuez-vous à peindre ces grandes toiles colorées avec des objets et où la matière et la couleur finalement?
Yeah, even more color now.
Oui.
Even more texture.
J'emploie encore plus de couleurs et de textures.
Qu'avant. Some new ones.
J'ai de nouveaux tableaux encore plus colorés qui ne sont pas à l'exposition encore.
Donc ce n'est pas peinture ou cinéma. C'est peinture et cinéma.
Et at the moment it's really still
movies. À l'heure actuelle, je me concentre quand même sur le cinéma. La peinture nécessitant
so
beaucoup
still,
de temps.
Holding on to cinema.
Par conséquent, je m'accroche encore au cinéma.
Alors, grâce à cette rétrospective qu'organise la Cinémathèque française, on peut aussi savoir comment, finalement, la dimension artistique, pas seulement picturale, mais aussi littéraire, est importante dans votre parcours, Gus Van Sant. Et là, je voudrais parler des films expérimentaux que vous avez faits avec William Burroughs et Allen Ginsberg. On va d'abord écouter William Burroughs.
Well, people sometimes ask me if I have any words of advice for young people. And here are a few simple admonitions. Never interfere in a boy and girl fight. Beware of whores who say they don't want money. In the long run, these are the most expensive whores what can be got. If you're doing business with a religious son of a bitch, get it in writing. Because his word isn't worth shit, not with the good Lord telling him how to fuck you on the deal. If, after having been exposed to someone's presence, you feel as if you'd lost a quart of plasma, avoid that presence. You need it like you need pernicious anemia. We don't like to hear the word vampire here, trying to improve our PR. Interdependence is the key word. Enlightened interdependence. Life in all its rich variety, take a little, leave a little. However, by the inexorable logistics of the vampiric process, they always take more than they leave. Avoid fuck-ups. Fools, I call them. You all know the type. Everything they have anything to do with turns into a disaster, no matter how good it may sound. Yeah. Trouble for themselves and everyone connected with them. A boo is bad news and it rubs off. Don't let it rub off on you. do not prefer sympathy to the mentally ill. It's a bottomless pit. Tell them firmly, I am not paid to listen to this drivel. You are eternal food. And avoid confirmed criminals. They are a special malignant strain of food.
Comment avez-vous connu William Burroughs?
Burroughs was a, in my generation, which is sort of that tail end of
ma génération, c'est un petit peu la fin du baby boom. Et William Burroughs, lui, était très renommé lorsque j'étais à la fac. En effet, il venait de sortir Le Festin nu. Je crois qu'il avait déjà écrit 7 ou 8 romans. Et moi, j'ai commencé à découvrir ça au début des années 70, donc assez tard en réalité.
During school, I read,
pendant mes études,
a short story
j'ai lu une nouvelle,
that I wanted to make
une nouvelle de Burroughs, dont je voulais faire un court-métrage, The Discipline of D, ça se retrouve dans la rétrospective d'ailleurs.
Dans les années 70,
il y avait encore des annuaires téléphoniques. Donc, il se trouve que William Burroughs était dans l'annuaire téléphonique de New York. Je l'ai appelé. Je lui ai rendu visite et je lui ai demandé la permission d'avoir les droits pour faire un court métrage à partir de cette nouvelle. Il m'a dit d'accord. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Par la suite, lorsque j'ai tourné Drugstore Cowboy, je me suis dit qu'il pourrait tenir le rôle de Tom,
which he turned into Tom the Priest.
Et puis il l'a transformé en Tom le prêtre.
And so through that film, I got to know him better.
Et grâce à ce tournage, j'ai appris à mieux le connaître.
Est-ce que ce flux de poésie, cette déstructuration du langage tramé par ces poètes qui étaient Ginsberg et Burroughs, vous ont influencé dans votre manière d'écrire des scénarios et de voir la réalité?
Let's see. I think yeah, for Burroughs, the cut-up.
S'agissant de Burroughs, les cut-ups, ces déstructurations sont un petit peu à la littérature ce que sont les collages dans le domaine de l'art. Donc là, il s'agit d'un collage d'écriture et ça fonctionne comme le collage visuel. Il s'agit donc de juxtaposition. J'imagine que cela...
I'm not sure that I'm doing anything like that ever in my work. But,
licence, maybe d'opérer. Je n'ai pas l'impression que je fasse ça dans mon travail. Peut-être dans certains aspects visuels, oui, il y a une certaine influence de Burroughs, mais assez lointaine.
I guess it's probably like as a whole between Kerouac and Ginsberg and Burroughs.
Il y a Kerouac, il y a Ginsberg, il y a Burroughs. Et je dirais que tous les gens de ma génération ont été influencés par la génération Beat. Et à l'heure actuelle, les jeunes d'aujourd'hui sont également influencés par eux, car ce sont des iconoclastes qui sont une source d'inspiration pour moi, mais aussi pour des artistes jeunes.
I think that's the biggest inspiration.
Donc voilà,
is their art, you know,
c'est l'art de cet ensemble d'artistes.
Not so much,
donc c'est de là que vient l'influence.
Getting to know them is
c'est pas tellement
separate. It's
like le fait de les connaître sur le plan personnel qui joue un rôle.
But also, I think as intellectuals, they're
mais en tant qu'intellectuels, ce sont des gens qui vous inspirent lorsque vous êtes des jeunes qui voulez vous démarquer dans le domaine de l'art, de la réflexion.
Le mouvement homosexuel, c'est un peu comme le mouvement des femmes il y a quelques années. On commençait à en parler, mais les gens n'en connaissaient pas grand-chose. Dans certaines villes, comme San Francisco, on connaît le mouvement, mais ailleurs, presque pas. Et si je suis élu adjoint au maire, ce sera à la une de tous les journaux. Mais déjà, la prise de conscience commence.
Si vous êtes élu, vous aurez le pouvoir de changer la condition des homosexuels?
Non, je n'en aurai pas le pouvoir. Mais ma position me donnera une tribune. Et cela peut aider à changer les choses.
Vous êtes l'auteur d'un film très important, à la fois sur le plan cinématographique, mais aussi sur le plan des mentalités, de l'histoire des mentalités. Je veux bien sûr parler de Harvey Milk. Première question, puisque je sais que ce projet, vous l'avez tramé pendant plus de 15 ans. Première question, par rapport à ce mouvement de Ginsberg, de la musique aussi, parce que vous êtes aussi musicien, Gus Van Sant. Quand avez-vous compris que vous étiez homosexuel? Quand vous l'êtes-vous avoué à vous-même? Et est-ce que c'était à une période où c'était encore difficile?
Je
devais être jeune. J'étais ado. Et là, il y avait certaines idées sur les homosexuels. Les homosexuels sont très étrangers à l'environnement, à l'air ambiant, disons. Et cet environnement était le même dans lequel baignait Harvey Milk, qui n'était pas originaire de New York, mais qui s'est retrouvé à New York. Personnellement, je ne suis pas à New York, mais j'étais dans cette même ambiance, si vous voulez. Donc, la vie homosexuelle existait. Et du reste, pour revenir à votre question sur la peinture, on avait accès à ce monde homosexuel par ce prof d'art, de peinture, Robert Levin, lui, qui nous disait qu'il considérait que sa vie était celle d'un visiteur de Greenwich Village, un petit peu comme Harvey dans Harvey Milk. Donc il aurait eu à peu près l'âge de Harvey Milk. Et donc là, on est au début des années 60, à New York.
We from the suburbs could,
et
like,
nous,
sort of just see it
qui étions banlieusards, adolescents, voyons ça de l'extérieur, mais par la suite, donc j'ai attendu pour mon coming out, mais je crois que le mouvement lui-même, c'est ça qui a été l'étincelle qui m'a permis de faire mon coming out.
The gay movement. In the 70s.
Là, je vous parle du mouvement gay des années 70.
Quelle a été votre idée quand vous avez décidé de faire ce film donc sur Harvey Milk? Qu'est-ce que c'était pour faire reconnaître ce combat? Est-ce que c'était pour le populariser? Est-ce que c'était pour banaliser l'homosexualité? Vous êtes un drôle de cinéaste, Gus Van Sant, parce qu'au moment où vous avez voulu faire ce film, vous saviez qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait faire un film sur le même sujet, mais vous vous êtes obstiné. Quelle était votre idée de départ, sachant qu'en plus, ce film ne correspond pas vraiment à l'ensemble de votre cinématographie, stylistiquement parlant?
C'est
vrai que Harvey Milk est un petit peu différent de mes autres films parce qu'il tient un propos politique, ouvertement. À d'autres moments,
facilitator, as a director,
j'ai tenté d'être
other works,
une sorte
like Good Will Hunting,
d'intermédiaire.
Really my,
donc, porter au cinéma des idées qui ne sont pas les miennes. Voilà.
Yeah,
mais
Harvey
Milk est en effet un film différent par rapport aux autres.
Et
j'aime bien me lancer dans le travail de quelqu'un d'autre, dans le scénario de quelqu'un d'autre.
I started out being part of
s'agissant des deux projets, il y avait
Randy
le projet de
that was the original project that I think all of us
issu du livre de Randy Shields, The Mayor of Castro Street et The Last Black. Donc là, il y avait ce projet-là, mais les producteurs
at odds maybe with like ideas that I was trying to have.
N'arrivaient pas à adopter
they were at odds with maybe Lance Black's experience.
Ils avaient du mal à s'approprier l'expérience de Lance Black, donc lui et moi nous étions un petit peu à la marge de ce projet, donc on s'est lancé dans le nôtre. Donc,
Lance in particular was
il y avait la connaissance
just created his own,
de Harvey,
his own
et
project.
Donc on a lancé le propre projet. Donc moi, je me suis attelé à ça.
It was always the one project. It was always
donc,
Harvey's project.
Ça a toujours été le projet de Harvey. Hein.
The original project was
le
very,
projet d'origine
very, very high
se positionnait comme
very big movie stars.
Un projet avec de grandes vedettes, avec un gros budget, et ça allait à l'encontre des studios. Comment montrer un militant gay dans un film avec un Tom Hanks ou un Robin Williams, vous voyez. Et sans arrêt, dans la préparation, on disait, voilà, une grande vedette, grand film, grand budget, grand projet. Et les studios disaient, ben non, c'est quand même un homosexuel, hein. Donc, l'histoire de Harvey a souvent fait l'objet de compromis, étant donné l'ampleur du projet. Il embrasse son petit ami à la page 70. Vous voyez, la vie de Harvey Milk a été un petit peu trafiquée, plutôt que de montrer la vie du mouvement gay, bien qu'il y ait eu des gens faisant partie du mouvement gay. Et qui essayait de se faire valoir et de se montrer à l'ensemble du monde. Bref, le temps a passé. On s'est lancé dans le tournage en 2007, assez tard. Le projet d'origine, le maire de Castro Street, lui a été lancé en 89 ou 90, peut-être même plus tôt, s'agissant des prolégomènes, mais bref, vous voyez, il y a un grand décalage dans le temps, là. Et il y avait de gros problèmes pour monter cette production. Donc les années ont filé et on n'arrêtait pas de dire, mais où il en est ce projet ? 15 ans se sont passés et on voulait toujours raconter l'histoire de Harvey. Pourquoi y a-t-il des arrêts sans arrêt ? Donc c'était assez frustrant.
Pourquoi avez-vous utilisé des archives à l'intérieur de ce film, Gus Van Sant?
Les archives étaient le reflet de la période et c'était parfait pour nous. Dans les images qui n'étaient pas d'archives, nous essayions toujours de nous replonger dans la période. Les archives, elles, était en convergence avec la réalité. C'est ce qu'on essayait de faire, donc.
Avez-vous l'impression, Gus Van Sant, d'être un cinéaste sociétal? Je veux dire par là que vous faites des films qui marquent des faits de société et qui les impriment dans la mémoire collective. Je pense à Paranoid Park, je pense à Elephant, je pense à Harvey Milk. Est-ce que votre ambition, c'est aussi de porter témoignage de manière artistique de ce qui nous arrive à tous?
Paranoid Park et Elephant, ce sont deux films différents.
Paranoid Park,
c'est une nouvelle plongée dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Là, c'est un jeune adulte. C'est issu d'une histoire pour jeunes adultes. Je parle du roman, là. Elephant et Last Days ont des points communs.
Là,
il s'agit de sujets qui ont été fortement médiatisés.
Et
j'ai eu la volonté de faire ces deux films, étant donné l'énorme couverture médiatique qu'il y a eu dans le massacre de Columbine et qu'il y a eu avec la mort de Kurt Cobain. Une telle couverture médiatique, et c'était une histoire psychologique dans les deux cas. Il y avait dans les deux cas du mystère. Que s'est-il passé? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il eu ces victimes? C'était assez sensationnel. Et néanmoins, il y avait des experts, des journalistes, des psychologues.
Et
à cette époque-là, le cinéma pouvait revêtir une forme d'enquête. Pas besoin de distraire les gens désormais. Donc, les médias ont pu utiliser le cinéma pour justement étudier le pourquoi de ces événements. Elephant
a suscité
de la crainte parce qu'on prend. Certains ont pu penser que voilà une tragédie que l'on minimise. Alors qu'une enquête médiatique, ce n'est pas du tout considéré comme de la distraction, alors que c'est le cas pourtant. Donc le journaliste s'était devenu de l'entertainment et l'entertainment devenait du journalisme. Et je me suis dit que le moment était venu de mener une enquête avec un récit dramatique pour étudier toutes ces questions. Et le film, c'était une espèce d'enquête sur l'imaginaire du public. C'était un sujet tellement médiatisé que c'était en fait une réflexion sur l'événement lui-même. En fait, c'est une drôle de façon de procéder que de demander au public quelles sont les réponses plutôt que d'expliquer au public ce que pourraient être les tenants et les aboutissants issus de la réflexion du cinéaste. Donc vous voyez, c'est pas forcément une analyse conventionnelle. Bref, c'est devenu un projet cinématographique très étrange parce qu'à l'époque de Columbine, je voulais que ce soit un téléfilm. Je voulais que ça passe à la télévision nationale américaine et je voulais que ce soit une enquête, mais de téléfilm. Mais en réalité, les chaînes de télé américaines, face à l'ampleur de cet événement, avaient du mal à continuer à diffuser des séries violentes. Ça suffisait. Donc moi, ils ne voulaient pas que je me lance dans un nouveau genre pour relater l'événement tragique de Columbine, parce qu'ils avaient peur de leur propre programmation. Imaginez la même situation aujourd'hui. Le cinéma dramatique n'a pas évolué pour revêtir les aspects de l'investigation qui sont l'apanage du journalisme et du documentaire. Mais c'était une réaction face à ce que j'ai vu, moi, c'est-à-dire
une situation où vous avez
un documentariste sans aucune expérience qui a toute légitimité pour faire un film sur Columbine, alors qu'un cinéaste expérimenté n'a pas de légitimité, étant donné simplement la forme, le genre qui est le leur.
On écoute Kurt Cobain.
I'm
Acceptez-vous, Gus Van Sant, d'être qualifié de cinéaste sentimental quand on voit un film comme Restless, qui met en scène donc deux adolescents ou deux très jeunes entrant dans l'âge adulte qui sont amoureux l'un de l'autre. Simplement, il y a un petit problème, c'est que la jeune femme sait qu'elle va mourir très très vite. Et vous faites là un film absolument magnifique qui nous tire les larmes aux yeux en étant entre la grâce, la poésie, la méditation philosophique. Comment avez-vous construit cette histoire de Restless?
I was just following the screenplay. I was Jason Lee had like written.
Jason Lee avait écrit le scénario.
Ron Howard was supposed to direct.
Ron Howard devait être le réalisateur. Mais au bout du compte, ça a été moi. Donc j'ai fait que suivre les instructions. Mais maintenant, rétrospectivement, je me dis que.
I haven't seen it in a while.
Ça fait un moment que j'ai pas vu le film, mais je me dis.
Its sentimental quality. It was written. Jason himself.
Il a une qualité sentimentale. Jason, le scénariste.
Grew up with his father. Being a
élevé
a child oncologist in Maine.
Par un père so he lived qui était cancérologue pour enfants dans l'état du Maine. Donc il était entouré d'enfants cancéreux.
When he went to NYU,
il est allé à l'université de New York.
He started writing this story.
Il a commencé à écrire cette histoire.
And many variations of this kind of story,
avec pas mal de
kind of
déclinaisons de cette histoire, avec ces personnages qui rendaient visite à des enfants portant le cancer, par exemple le pilote kamikaze japonais. Donc ça, c'est issu de son imagination.
So it was sort of this fantasy and reality.
Bref, c'est un mélange de réalité et d'imagination.
Attempting to, like, you know,
donc, face à ce scénario, moi, j'ai simplement essayé de mettre les choses en image.
Oui, mais la mort, on la met comment en image? Parce que vous êtes un cinéaste de l'approche de la mort. Qu'on parle du film sur Kurt Cobain et son suicide, qu'on parle de Paranoid Park, qu'on parle du dernier film qu'on peut voir, où le sujet principal, c'est justement la tentation de la mort et la tentative de mourir, et qu'on parle de Restless, c'est vraiment la mort. Est-ce que la mort est représentable pour vous, Gus Van Sant?
Yeah, I think the, you know, the mystery of death is like,
le mystère de la mort constitue, à mon avis,
un
sujet assez rémanent
so,
dans mes
way,
films.
I mean, you're always on the side of life, but
évidemment,
almost always.
Je suis du côté de la vie, mais la mort, elle, est assez omniprésente.
I think it's a dramatic. I mean, I guess it's a story pondering of the filmmaker, of me.
Donc, c'est peut-être un reflet des pensées qui circulent dans mon esprit.
I met a boy.
Really?
Yeah, I met him at Chris's memorial.
Do I know you?
Does anybody here know you? It was kind of different.
Different can be good.
This is the fourth funeral I've seen you at this month. And if I see you around here again, I'm calling the cops and I'm going to
tell
you.
Marcus? This is my boyfriend, Marcus.
Nice to meet you, Marcus.
Pleasure's all yours, I'm sure. Thanks for bailing me out back there. I'm Enoch.
I'm Annabelle.
Did you know that kid from the other funeral?
Oh yeah, I volunteer at the hospital.
Come on, Riot!
Do you know one of these kids?
No. Hiroshi and I just like to...
Who's Hiroshi?
He's a ghost.
He's a ghost. Can I meet him?
Why is she dressed like a boy? He says he thinks you look really nice.
No, I didn't.
Thank you, Hiroshi.
Annabelle tells me you're a funeral crashing dropout with a ghost friend.
Sounds not so good when you say it all together like that.
Do you want to talk about Enoch?
It's getting pretty complicated.
I was lying about working at the hospital. I'm a patient.
Is that okay?
Make her better.
I don't think you understand.
Make her better! I think of things going a certain way and then they don't.
You think you have nothing?
You have everything.
How's this gonna go?
I don't know.
That's the part where you say it's gonna go really well. There's this kind of songbird that thinks it dies every time the sun goes down. In the morning when it wakes up, it's totally shocked to still be alive. So it sings this really beautiful song. I've sung every morning since I met you.
Dans Restless, les personnages, finalement, n'ont pas peur de la mort. Ils ne la craignent pas. Dans votre dernier film, La mère d'arbres, Sea of Trees, eh bien, c'est l'histoire d'un homme, on va pas raconter toute la dramatisation psychologique qu'il y a dans le film, mais on peut dire quand même que c'est l'histoire d'un homme qui veut mourir et qui se rend au Japon, dans une forêt, où on vous permet, on vous engage peut-être même à mourir. Mais la mort ne veut pas de lui. On peut dire ça ?
Mm-hmm, yes.
Parce qu'il y a plusieurs sens à votre film. D'ailleurs, il y a toujours plusieurs sens dans vos films. À chaque spectateur d'avoir sa propre interprétation. Est-ce qu'il veut la mort ? Ou est-ce que la mort le refuse?
Yeah, I mean the character is on a on a mission.
Film s'est vu confier une mission. Donc il a en lui cette mission, il va vers un lieu où les gens se tuent.
Him becoming
l'histoire est celle de ce personnage qui est distrait dans cette mission par des événements qui ont lieu dans cette forêt. Donc il va dans cette forêt pour se tuer.
Qui existe vraiment, cette forêt?
C'est une forêt qui existe, oui. Elle est à la périphérie de Tokyo, au pied du mont Fuji.
Et
son intention, c'est de se rendre dans cette forêt à la demande de son épouse, qui lui demande de promettre qu'il trouvera un lieu d'une grande beauté lorsqu'il meurt, et pas un lieu déprimant comme un hôpital. Donc le personnage essaye de répondre à la demande de son épouse, et lorsqu'il se rend dans cette forêt,
involved in the mysteries of the actual forest.
Il se trouve plongé dans les mystères de la forêt.
Interrupted.
Et par conséquent, sa mission est avortée. Il ne pourra pas la mener à bien.
Ça, c'est un des thèmes de ce film, donc la forêt d'arbres. Mais ce n'est pas le seul, parce qu'un des thèmes aussi obsessionnels de votre œuvre cinématographique, Gus Van Sant, qu'on retrouve dans ce dernier film, c'est la culpabilité. Parce que cet homme a vécu un amour conjugal qui s'est entaché de beaucoup de problèmes et qui s'est transformé en mauvaise liaison. Et c'est quand sa femme devient malade qu'il réalise à quel point il l'a aimée, il l'aime et il l'a mal aimée.
Yes, I think guilt is by default.
Oui,
guilt is
par défaut, je dirais que la culpabilité constitue un thème très largement présent dans mes films.
Yeah, it was written in the screenplay, but yeah, I think it's a subject that in many of the films, yeah.
Oui, on retrouve ça dans pas mal de films. Oui, ça fait partie des thèmes liés aux émotions.
It's an emotion.
Donc la culpabilité en tant qu'émotion.
Okay. Trail.
Well,
it's the trail.
You see?
Yes, yes. Okay.
Listen, I see the trail.
Follow it that way. It'll bring you back to the parking lot, okay?
Yes.
Yes. Go. Go.
Thank you. Thank you. Thank you.
Okay. Okay, go. Go.
Right.
La culpabilité, c'est effectivement un des thèmes centraux de votre œuvre cinématographique, mais il y a aussi l'engagement, il y a aussi... On en parlait tout à l'heure avec des films comme Harvey Milk. Il y a eu un film qui a obtenu un grand succès et qui est repassé récemment à la télévision française. Vous ne le savez peut-être pas, Gus Van Sant, c'est Promised Land, qui raconte donc l'histoire d'un brave type qui vient dans une province américaine et qui vient vendre finalement l'âme des paysans parce qu'il veut leur acheter leur terre, parce que sous leur terre, il y a du gaz de schiste. Là non plus, il ne faut pas raconter la problématique du film ni les différents événements qui vont, voilà, ponctuer ce film. Mais n'empêche, il y a un petit message toujours dans vos films. Dans Promised Land, le jeune homme, il pensait travailler pour une bonne cause. Et petit à petit, le film va dérouler la problématique, encore une fois, de la responsabilité, voire de la culpabilité. Pourquoi ? Ça vous intéresse tellement, Gus Van Sant.
I don't know. I think.
Je ne sais pas.
I mean, it's a. I think it's maybe an emotion that.
La culpabilité.
I am good at.
Et so sans doute une émotion que je sais relater. Donc peut-être que la culpabilité est bien traitée dans le scénario. Peut-être que un Oliver Stone, par exemple, ne mettrait pas autant en avant la culpabilité. Matt Damon, quant à lui, joue très bien la culpabilité. Il est formidable quand il ment.
Mais
on dit que les gens voient les bons acteurs quand, s'ils savent bien mentir.
In the case of Promised Land, his character isn't lying.
Son personnage ne ment pas en réalité. Son personnage croit dur comme fer à ses convictions, mais sa relation à son entreprise devient entachée de soupçons. Et le personnage essaye de lutter contre cela. Moi, j'ai l'impression que la France apparaît dans l'histoire parce que la fracturation hydraulique fait l'objet d'un moratoire en France. C'est interdit en France, n'est-ce pas? Donc, nous étions en plein cœur de la Pennsylvanie, et pendant le tournage d'ailleurs, il y avait un énorme chantier qui était en cours de mise en place près de Pittsburgh, donc un grand chantier de fracturation hydraulique pour exploiter le gaz de schiste en Pennsylvanie. Et ça couvre une grande partie du nord-est des États-Unis, là, à plus grande échelle, ce projet. Donc c'est une cible privilégiée des grandes sociétés pétrolières. Bref, nous étions au cœur même et de tout cela, et on était logés dans un hôtel où il se tenait des conférences sur les services qui devaient apporter leur soutien aux exploitants, même de cette fracturation, de cette exploitation. Et les exploitations agricoles où nous tournions étaient confrontées à ce problème, en plein tournage, donc. Hein. Et la France est arrivé comme ça à notre attention parce que apparemment les Français savent quelque chose que les Américains ne savent pas. Les Français savent que la fracturation hydraulique et l'exploitation du gaz de schiste, c'est pas bon pour la terre. Ça, les Français l'ont compris. Donc ça, c'était présent à notre esprit. C'est un fait qui est établi, que nous avions bien enregistré.
American business,
et sinon,
American corporate business,
les grandes entreprises américaines et les responsabilités des grandes entreprises internationales constituent quand même un sujet d'étude intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de critiques et beaucoup d'enquêtes. Lorsque la responsabilité entre en collision avec le lucre, c'est impossible pour l'entreprise de mettre la responsabilité de côté quand il faut mettre l'accent sur les bénéfices. Donc, l'entreprise néolibérale est un mauvais modèle en réalité, mauvais modèle comportemental. Et c'est ça que le film dénonce, pas tellement la fracturation hydraulique elle-même, je dénonce plutôt le goût du lucre sans limite des grandes entreprises.
En tout cas, vos deux derniers films se terminent bien, nous incitent à penser, Gus Van Sant, aussi bien Promised Land que Sea of Trees. Votre prochain projet?
We just finished, or just working on. I finished an episode of a.
Je viens de terminer un épisode d'une série spéciale qui s'appelle When We Rise.
Dustin Lance Black is the.
Lance Black en est le créateur. C'est une série qui dépeint trois militants gays à San Francisco entre 72 et l'époque actuelle. Donc c'est une série en 8 heures. Donc cela dépeint l'histoire du mouvement des droits des gays à San Francisco. C'est un petit peu comme Harvey Milk, mais un petit peu étendu dans le temps, un petit peu étiré dans le temps.
Merci à notre traducteur Xavier Combes. Merci à vous Gus Van Sant. Je rappelle que tous vos films sont disponibles en DVD et qu'actuellement en France sur les écrans, votre film Sea of Trees a été traduit sous le titre de Nos Souvenirs. Et je rappelle aussi qu'une rétrospective et une exposition vous sont consacrées à la Cinémathèque française. Merci à Arthur Gerbeau, Corinne Amar, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.